le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies, dont voici les principaux titres de cette édition. Les projets réalisés avec succès à la base par le CNUD le sont avec de petits moyens, mais le gouvernement peut les amener à échelle pour la continuité et la durabilité. C'est l'un des enseignements retenus par la représentante résidente AI du CNUD en RDC à l'occasion des échanges dans le cadre du Mardi de Développement. Le Mardi de Développement est une plateforme mise en place par cette agence pour échanger avec ses partenaires autour des expériences de développement. Vous suivrez dans cette édition Madame Rokia Dieng. Baisser de 90% le nombre de décès dus au choléra dans le monde d'ici 2030, un objectif de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Dans la feuille de route élaborée à cet effet, la vaccination contre cette maladie figure parmi les stratégies préconisées. Ce qui explique la tenue à Kinshasa du 17 au 21 octobre 2022 des travaux de formation régionale sur l'intégration du vaccin oral contre cette maladie dans les contextes d'urgence et de prévention. Pour le représentant de l'OMS en RDC, la vaccination contre le choléra est une mesure supplémentaire de contrôle dans le sens où elle aide à prévenir les épidémies potentielles de la maladie pendant des situations de crise. Vous suivez également Dr. Amédée Prosper Djingunbe. Pour une dynamique politique d'intégration de l'Afrique centrale, plaidoyer du tout nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour cette région. En visite de travail en RDC, le chef de bureau UNOCA, Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, a été reçu en audience par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Des échanges avec le chef du gouvernement congolais ont gravité notamment autour des défis sécuritaires et des atouts dont regorge la République démocratique du Congo. Notre invité dans cette édition, c'est Jean-Ludovic Métenier, coordinateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC, qui est en mission de suivi des activités que mène son agence dans la province du Maniema. C'est le menu du magazine de Nations Unies de ce dimanche 23 octobre 2022, dont vous allez suivre le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et bon dimanche chez vous. Développement à la base. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD RDC a organisé mardi 18 octobre dernier à Kinshasa un forum d'échange avec ses partenaires du gouvernement, du monde diplomatique, de la société civile ainsi que du monde des affaires. Des échanges autour des expériences de développement en rapport avec les réalisations concrètes de l'agence de ces trois dernières années dans le domaine de l'innovation, de la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que de l'instauration des sociétés après les conflits et les changements climatiques. Le forum s'appelle Mardi du Développement, une plateforme dont la représentante résidente AI du PNUD RDC, Madame Rokia Dieng, a d'abord circonscrit le contenu avant les échanges proprement dits avec les participants. Madame Rokia Dieng.
Avant le contexte Covid, le PNUD avait l'expérience et l'opportunité de s'asseoir avec ses partenaires et de partager le Mardi du Développement, qui est une plateforme qui permet de réunir les partenaires et d'échanger de façon constructive sur des thématiques bien précises de gouvernance, des méthodes, y compris de nouvelles méthodes de travail. Alors, le Mardi du Développement, qu'est-ce que c'est? Pour nous, le Mardi du Développement, c'est vraiment ce cadre d'échange-là qui devrait nous permettre aussi bien les experts de développement, les responsables des différents ministères, des bailleurs de fonds, la société civile, y compris des partenaires de la communication également, de passer en revue ce que nous avons pu atteindre au cours d'une période bien précise de mise en œuvre de nos programmes. Il ne s'agit pas d'une revue de notre programme, parce que la revue de notre programme se passe dans un autre cadre avec les ministères concernés sous le leadership du ministère de la coopération internationale. Il s'agit surtout de repasser en revue juste les résultats qui ont été atteints, mais également d'avoir une discussion avec vous, une discussion sur la manière de travailler également, qu'est-ce qu'on peut améliorer à travers ce que nous avons eu à mettre en œuvre, y compris dans la dynamique actuelle que nous connaissons, puisque dans un contexte comme celui-ci, les choses ont beaucoup bougé, les choses ont changé, et c'est l'opportunité également de réfléchir, de voir ensemble qu'est-ce qu'on pense du développement face aux défis actuels.
Et des discussions qui ont suivi la projection des vidéos des actions du PNUD réalisées notamment dans la région du Grand Kasaï, post-crise Kamouna-Sampo, Rokia Dieng a retenu plusieurs enseignements et tiré des leçons qu'elle a partagées dans sa conclusion.
Je retiens également que parler de développement nous amène en milieu rural, parce qu'il est important que le développement se fasse au niveau local, puisque nous sommes beaucoup concentrés en ville. Il faut aller sur le terrain, je prends bonne note de cela. Et je retiens également que la coordination concertée, le fait que nous devons communiquer, travailler ensemble, comparer les notes pour éviter aussi des duplications. Juste pour votre information, les moyens et les fonds qui ont permis de mettre ces programmes-là en œuvre avec succès, avec des résultats palpables, ce sont des petits moyens, mais qui peuvent être amenés à échelle. Et pour amener à échelle, on a besoin de discuter. Comment le gouvernement peut prendre ces cas concrets, ces résultats qui ont été obtenus et les amener à échelle? Comment nous pouvons négocier pour qu'au niveau du budget de l'État, il y ait ne serait-ce que des lignes qui puissent permettre la continuité, la durabilité de certaines interventions?
C'était un dossier réalisé par Honoré Missinga Kalala. L'utilisation à grande échelle du vaccin anticholérique oral a un impact à court et à moyen terme avec une réduction immédiate du nombre de cas de choléra, affirmation du docteur Amédée Prosper Djigimbe, représentant de l'OMS en RDC. C'était à l'ouverture d'un atelier de formation sur l'intégration du vaccin oral contre le choléra dans le contexte d'urgence et de prévention. Des experts médicaux de quelques pays de l'Afrique francophone ont pris part aux travaux qui se sont tenus à Kinshasa du 17 au 21 octobre 2022. Suivant un extrait du message du représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, le docteur Amédée Prosper Djigimbe, encore une fois au micro d'Honoré Missinga Kalala.
Je voudrais saisir l'opportunité pour rappeler que la vaccination contre le choléra est considérée comme une mesure supplémentaire de contrôle de cette maladie, dans le sens où elle aide à prévenir de potentielles épidémies de choléra pendant les situations de crise, ou lors de la propagation des épidémies dans les nouvelles zones non encore affectées. L'utilisation à large échelle du vaccin anticholérique oral a un impact à court et à moyen terme avec une réduction immédiate du nombre de cas de choléra. La période de protection qu'offre ce vaccin constitue une fenêtre d'opportunité pour l'implémentation de mesures de prévention à long terme dont l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'engagement communautaire. Lors de la réunion annuelle des parties prenantes du groupe de travail mondial sur la lutte contre le choléra, plusieurs défis ont été soulignés. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la formulation des requêtes pour l'obtention des vaccins afin de soutenir les campagnes de vaccination réactives et préventives de qualité. Il s'agit également du renforcement de l'utilisation du vaccin oral contre le choléra comme réponse aux épidémies dans certains contextes. Il s'agit également d'un meilleur suivi des évaluations des campagnes de vaccination contre cette terrible maladie pour les rendre plus adéquates.
Et bien que confrontée aux flambées actuelles de choléra dans certaines provinces, la RDC reste confiante au regard des engagements pris dans le cadre de la feuille de route 2030 pour l'élimination du choléra comme problème de santé publique, a déclaré pour sa part le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba-Koulou, toujours à l'ouverture des travaux. Défis et perspectives pour taire les armes en Afrique centrale, rétrospection et analyse, c'est le thème de la première biennale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour une culture de la paix qui s'est tenue du 14 au 15 octobre 2022 à Kinshasa. Le gouvernement congolais a organisé ce forum en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le cadre choisi était l'amphithéâtre du Collège de hautes études stratégiques de la défense. Jeff Opela, reportage.
À l'issue de ces travaux, il faut retenir que les participants ont formulé quelques recommandations et une qui a travaillé à l'organisation en concomitance avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, Madame Kapinga Yvette Ngandou, commissaire en charge du genre développement humain et société. présidentielle de la CIAC au Gabon explique.
Nous avons lancé le 11 octobre de cette année, ici même à Kinshasa, la première biennale pour la promotion de la culture de la paix en Afrique centrale. Elle relève d'une décision des chefs d'État de la sous-région de 2015, prise au Tchad, à N'Djamena, qu'il fallait justement inclure dans notre architecture, dans nos outils pour faire taire les arbres, la culture. Mettre l'humain, mettre nos pratiques ancestrales au centre de nos pratiques pour faire taire les arbres et innover. Même si, si on le regarde bien, l'histoire nous a démontré que c'était des pratiques qui étaient déjà d'usage, et il y a des décennies de cela, mais qui ont été malheureusement négligées récemment pour importer des pratiques qui ne sont pas forcément les nôtres. Et donc nous avons décidé, sous l'impulse d'une décision des chefs d'État, mais également sur une décision du président en exercice de la CVAC, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait décidé qu'il ferait de sa mandature, qui est l'année actuelle, la culture, l'éducation et la santé, ses priorités et la triptyque sur laquelle il allait baser sa mandature. Et donc nous essayons, dans le cadre de tout cela, essayer de développer ou accélérer les engagements qui ont été pris.
La paix, c'est un travail de cœur, a dit l'ambassadeur de la CIAC au Congo-Brazzaville, Monsieur Amouli Kabaruza Baudouin.
Est-ce que la culture de la paix est suffisamment diffusée parmi la population? Parce que si tout le monde est éduqué à la paix, et alors, comme on dit, la paix c'est dans les cœurs des gens. Et c'est dans les cœurs des gens qu'il faut régler le problème des conflits.
Une invitation des travaux des concerts a été lancée par le professeur avocate Madame Aouna Félicité de l'Université de Yaoundé 2. Écoutons.
Maintenant, il faut que les États acceptent de coopérer. Et qui dit coopérer signifie renoncer un peu à certains privilèges nationaux pour travailler de concert. C'est le plus difficile pour l'applicabilité du droit.
Cette biennale a réuni des participants de haut niveau de la région et du monde entier, de groupes de jeunes et des femmes, des organisations de la société civile et des ONG, et des représentants des diverses entités des Nations Unies.
Autre actualité de la semaine concernant l'Afrique centrale, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef de bureau UNOCA, Abdou Abari, plaide pour un dynamisme politique d'intégration régionale en vue d'un règlement des divers problèmes auxquels la région est confrontée. Il a déclaré mardi 18 octobre dernier à l'issue des échanges qu'il a eus avec le premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde. Des échanges qui ont gravité autour des défis sécuritaires et des atouts dont regorge la RDC sur le plan continental. On écoute Abdou Abari au micro de Jeff Ngoy Mulunda.
On a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires, mais également les atouts dont dispose cette région et ce grand pays en termes de potentialité naturelle, mais également de richesse humaine, le dynamisme de la jeunesse et donc des atouts qui, s'ils sont utilisés à bon escient, pourront permettre d'imprimer cette politique qu'en tout cas, en tant que Nations Unies, nous voulons, celle de voir la dynamique de l'intégration régionale se conforter dans la région et qu'avec cette dynamique d'intégration, que tous les problèmes, qu'il s'agisse des problèmes de gouvernance, des problèmes de paix et de sécurité, des problèmes de changement climatique, qu'ils puissent être réglés.
Justice en RDC, dans son volet pénitentiaire, l'unité correctionnelle de la MONUSCO a tenu du 11 au 15 octobre 2022 à Kinshasa sa première retraite des conseillères pénitentiaires. Promotion du genre en milieu carcéral, rôle et responsabilités du personnel pénitentiaire féminin. C'est autour de ce thème qu'ont tourné les échanges entre les conseillères pénitentiaires de la mission onusienne et le personnel féminin du système pénitentiaire de la RDC. Ces échanges ont été ponctués de visites de terrain, notamment à la prison centrale de Makala, où des activités ont été organisées au bénéfice des détenues femmes. Priscille Kabuya, reportage.
Cette première retraite de conseillères pénitentiaires de l'UIAP de la MONUSCO avait pour but de réaffirmer, valoriser et renforcer les leaderships féminins ainsi que l'épanouissement de personnel pénitentiaire féminin de la RDC. En plus de travaux de réflexion au cours desquels des échanges d'expériences ont été faits, des séances de solidarité et de fraternisation ont eu lieu à travers des visites des prisons, des activités sportives et récréatives entre les personnes féminines et les femmes détenues. Madame Patience Saï, responsable de l'unité d'appui à l'administration de la MONUSCO, nous a fait part de ses propos lors d'une de ses séances à la prison de Makala.
C'est une retraite pour les mettre ensemble, premièrement, mais aussi pour réfléchir un peu sur l'intégration de l'aspect genre dans l'administration pénitentiaire de la RDC, également en milieu carcéral d'une manière générale. Donc, on est ici pour avoir une interaction avec le détenu et aussi on a quand même des dons aussi à le faire. Des détenus aussi qui ont quand même des initiatives, de savoir-faire, des connaissances qu'on doit quand même exploiter pour l'intégration de l'aspect genre en milieu carcéral et les préparer à l'aide. leur réinsertion éventuelle, quoi.
La directrice de la prison s'est aussi exprimée en remerciant la MONUSCO et aussi la ministre de la Justice.
Nous remercions la MONUSCO pour cette initiative qu'il a prise sous le leadership surtout de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui elle tient vraiment à ce que les femmes pénitentiaires puissent se démarquer de par leur façon de travailler, de se tenir dans la société et d'apporter en plus dans la société.
Une opportunité pour les détenus qui ont bénéficié de conseils, formations, présents et autres, de hautes personnalités féminines qui sont des modèles de réussite en matière de leadership féminin.
Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je crois que d'un moment à l'autre, vous allez voir ce que nous avons pu réaliser. C'est grâce aux différentes formations que nous avons suivies ici. Donc tout en entrant ici, on ne savait pas qu'on pouvait aussi sortir avec quelque chose. Nous avons fait la cuisine, on a fait l'informatique, donc nous avons vraiment appris. Et nous croyons qu'en sortant ici, ça nous sera utile. Cela va nous permettre d'être utile à la société. Nous vous disons merci, tous les agents de la MONUSCO.
Les suivis et l'évaluation de recommandations issues de la retraite seront assurés par l'unité correctionnelle de la mission onusienne en collaboration avec le ministère de la Justice de la RDC, à travers la mise en place d'un comité mixte de coordination de la retraite.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Retour à la biennale de la CEAC pour la culture de la paix en Afrique centrale avec Madame Kapingangandou Yvette, commissaire en charge du genre, développement humain et social au sein de cette organisation basée à Libreville au Gabon. Madame Kapinga s'est prêtée aux questions du magazine des Nations Unies dans cet entretien avec Jeff Opela. Suivez.
Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par rapport aux assises réalisées pendant ces deux jours en République démocratique du Congo?
Merci. La CEAC organise depuis hier une grande rencontre des intellectuels de la sous-région, Afrique centrale spécifiquement, des 11 États de l'Afrique centrale, pour essayer de plancher un peu sur la contribution ou le bilan, si vous voulez, de l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine à la stabilisation, la paix et la sécurité de notre espace sous-régional.
Madame Descangate, l'architecture sécuritaire du continent, et quel est son impact sur cette organisation de la première biennale pour la promotion de la culture de la paix par la CEAC, le gouvernement, avec l'appui du programme des Nations Unies pour les développement.
L'architecture sécuritaire du continent a été créée exactement il y a 20 ans, en 2002, à Durban, en Afrique du Sud. Et donc nous avons pensé qu'à l'occasion de son 20e anniversaire, il fallait justement faire le bilan, voir où en était cette architecture et voir si dans le cadre de notre sous-région, il y avait des leçons, des bonnes pratiques à retenir et voir comment nous pouvions également, pour l'avenir, formuler des recommandations pour renforcer cette architecture, non seulement l'architecture, mais également ses pratiques et élargir aussi le concept qui est compris dans cette idée-là.
Oui. Oui, madame, nous comprenons bien, mais qu'est-ce que vous attendez de ces assises?
Accélérer les engagements qui ont été pris par les différents acteurs, les parties prenantes, mais développer une feuille de route. Alors c'est vraiment cela que nous attendons de ces assises. La première biennale de Kinshasa est censée nous donner de nouvelles perspectives. Quelle est la nouvelle feuille de route que nous voulons offrir à notre sous-région pour faire taire les arbres d'ici 2063, pour un peu reprendre l'expression de l'Union africaine, selon l'agenda 2063, qui contient justement une feuille de route qui porte sur l'objectif ou l'aspiration de faire taire les arbres d'ici 2063. Donc d'ici 2063, l'Afrique centrale doit se doter de cette feuille de route. Comment allons-nous faire taire les arbres d'ici 2063? On espère avant cela, évidemment, mais on reprend l'expression parce qu'elle est déjà acceptée. Cette feuille de route ne doit pas être similaire à ce que nous avons connu par le passé. Il y a eu d'autres stratégies pour pacifier la sous-région, pour pacifier les petits états, pour pacifier les localités, en utilisant des outils statutaires. Vous avez un conseil de paix et de sécurité, vous avez eu une architecture pour essayer de faire la collecte des données, l'analyse des données, et à faire un peu ce qu'on appelle l'alerte précoce. Vous avez aussi ce qu'on appelle le conseil des sages, qui sont censés être les médiateurs par excellence de notre continent. Vous avez aussi la force africaine en attente avec ses brigades sous-régionales et le fonds pour la paix. C'est ça un peu les outils dont disposaient jusqu'à présent et dont disposent encore nos institutions continentale et sous-régionale. Mais à cela, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on ajoute dans la feuille de route qu'ils disposent déjà une pléthore d'autres mécanismes qui peuvent essayer de rendre un peu plus opérationnels. Parce que nous voyons, au regard de la situation sécuritaire, aussi bien notre sous-région que les autres. C'est vrai, il y a eu des avancées, mais les choses ne sont pas là où les peuples africains souhaitent. Donc c'est un peu préoccupé par cela, par les attentes des populations. Nous avons dit qu'il fallait le renforcer en mettant l'humain au centre de cette nouvelle architecture pour faire taire les armes. Nous voulons à la fin présenter au monde, présenter à la sous-région, la nouvelle feuille de route de l'espace CEAC pour faire taire les armes ici. 2063 qui ne sera plus traditionnel comme elle était d'antan, mais qui va inclure l'humain avec un agenda de protection humaine, de sécurité humaine en son sein, en utilisant également, en plus de cela, la culture.
Merci madame d'avoir répondu à nos questions.
Nos nouvelles en plus bref, MONUSCO, la fermeture de la base du contingent indonésien à Chabunda au Sud-Kivu, c'est pour bientôt. Une équipe conjointe mission onusienne, gouvernement provincial l'a annoncé lundi 17 octobre 2022 devant la communauté locale au chef-lieu du territoire. Mais cette annonce a créé l'angoisse au sein de la population de la région. Restons dans le même espace de l'est du pays, à Beni cette fois, où environ 8000 enfants ont été sauvés de l'apatridie. Ces enfants ont obtenu leurs actes de naissance mardi dernier à la commune de Moulekira. C'est à l'issue d'une audience foraine organisée grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'audience foraine avait pour objectif de permettre à ces enfants d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. Enfin, direction Kananga au Kasaï central, une quarantaine de journalistes ont été formés sur la communication efficace dans la prévention des abus sexuels. L'activité a eu lieu mardi 18 octobre. Elle a été organisée par l'ONG Enfants Avenir avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. L'objectif était d'améliorer la communication et d'obtenir des médias locaux leur engagement dans la sensibilisation et la dénonciation des abus sexuels.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Capture Kindu au Maniema, comme annoncé plus haut, notre invité ce dimanche, c'est Jean-Ludovic Métenier, coordinateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC. Jean-Ludovic Métenier est en mission de suivi des activités menées par son agence dans cette province. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Jean-Ludovic Métenier, bonjour.
Oui, bonjour.
Au Maniema, vous êtes venu faire le suivi de toutes les activités menées par l'UNICEF dans cette province. Quel est ton constat après la ronde?
On est ici depuis vendredi dernier. Nous avons travaillé avec la division provinciale de la planification pour faire le point sur les activités que sont menées par l'UNICEF ici dans la province du Maniema. Je citerai notamment les activités qu'on mène dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection de l'enfant et l'éducation. Nous avons été notamment à Kailo où nous avons pu visiter des salles de classe qui ont été récemment construites par l'UNICEF en collaboration avec le PST. Nous avons rencontré les autorités à Kailo pour faire un petit peu le point sur les activités de convergence que nous menons sur le territoire de Kailo et nous allons continuer les discussions avec la division du PUL et l'ensemble des partenaires pour faire un état des lieux de l'avancée des différentes interventions que nous menons dans la province du Maniema et essayer de définir les priorités pour l'année 2023.
Êtes-vous satisfait des résultats?
Écoutez, dans l'ensemble, je pense que nous sommes relativement satisfaits des activités qui ont été menées avec les différents partenaires, que ce soit dans le domaine de la vaccination notamment, où il y a eu plusieurs campagnes de vaccination qui ont été menées, et dans les travaux, que ce soit dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement ou dans l'éducation où on travaille, on fait un certain nombre de constructions qui sont en cours et que nous avons pu visiter hier. Ce que je dirais, c'est que malheureusement la province du Maniema manque d'un appui au niveau national, que ce soit par les autorités, par le gouvernement et par les donateurs qui font qu'il y a peu d'activités qui sont menées ici dans la province du Maniema comparé aux besoins qui sont quand même très importants.
Dans la province du Maniema, les besoins des enfants sont encore très nombreux. Vous venez de le dire, vous construisez et équipez des écoles, mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a encore beaucoup encore d'écoles qui ne sont pas construites, mais encore équipées. Qu'en passez-vous?
Écoutez, non, on ne peut que déplorer cette situation où malheureusement l'investissement dans le développement de la province du Maniema reste très limité. Avec nos moyens limités, on contribue pour essayer de renforcer l'assistance l'assistance aux enfants de la province du Maniema, mais bien entendu, les besoins sont beaucoup plus importants que notre capacité. Et donc, ce que je pourrais simplement dire, c'est demander au gouvernement, demander aux donateurs de continuer et d'accroître les moyens qui sont mis à disposition pour assurer une meilleure éducation, un meilleur encadrement des enfants ici dans la province du Maniema.
Vous avez vu la réalité du Maniema. Qu'est-ce que UNICEF nous garantit?
L'UNICEF va continuer son partenariat avec les autorités de la province du Maniema et on va, dans la mesure du possible, essayer d'accroître les interventions qui sont menées ici dans la province du Maniema.
Alors, quant à la vaccination, vous intervenez bien sûr, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui sont insuffisamment vaccinés, faute de vaccins qui n'arrivent pas, dit à l'impraticabilité de nos routes. Vous avez un mot?
Écoutez, on travaille avec la division provinciale de la santé pour tout ce qui est les campagnes de vaccination. On a quand même un investissement conséquent pour faire que la vaccination de routine redémarre et puisse s'accélérer pour d'abord récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés à cause de la période qu'on a connue avec le Covid et pour s'assurer à ce que les enfants et les populations soient vaccinés contre les différentes maladies tueuses. Et je voudrais là parler parce que comme je parle pas uniquement des enfants, parce qu'on est aussi sur la vaccination Covid. Le Covid continue de circuler dans la République et il est important que la population se fasse vacciner contre toutes les maladies tueuses et en particulier contre la Covid.
Monsieur Jean Ludovic, avec votre présence au Maniema, quel message d'espoir donner aux Maniémais qui pensent que UNICEF va bientôt fermer ses portes?
Écoutez, le message que je peux apporter, c'est que pour l'UNICEF, la province du Maniema reste une province importante et que nous continuons notre engagement à soutenir la population et notamment les enfants dans la province du Maniema.
Monsieur Jean-Ludovic Métainier, je vous remercie.
Merci beaucoup.
$7 millions, c'est le budget de l'UNICEF 2022-2023 pour son plan de travail dans les provinces de la Tchopo et du Bazuélé. C'est ce qui a été retenu de l'entretien que la gouverneure de la Tchopo a eu lundi dernier avec le chef de bureau de cette agence à Kisangani, Mokhtar Han. Le point avec Jacques Mukonkole.
Au cabinet de l'autorité provinciale, Mokhtar Han, nouveau chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, se fait accompagner du chef de division provinciale du plan, Norbert Musunga. Une occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani de présenter à l'exécutif provincial le plan de travail de son agence ainsi que le budget y afférent. Les activités, a-t-il souligné, tournent essentiellement autour de l'éducation, la santé, la protection de l'enfant.
L'appui aux salles de classe, l'appui à l'éducation, l'appui aux hôpitaux, ici au niveau de la Tchopo, tout ce que nous faisons en termes de vaccination que nous avons investi dans la lutte contre la COVID-19, la vaccination contre la polio, méningite, ce sont nos domaines prioritaires. On voit exactement ce que nous sommes en train de faire en appui aux efforts qui sont déployés par les autorités provinciales, les ONG et les autres agences du système des Nations Unies.
L'occasion faisant le larron, Mokhtar Han a remercié Madame le gouverneur pour l'octroi d'un terrain à l'UNICEF en vue de la construction de ses propres bureaux. Le début des travaux est prévu pour janvier 2023. Tout est quasiment prêt, a précisé le chef de bureau de l'UNICEF. Pour sa part, Madeleine Nikomba se dit satisfaite du travail de l'UNICEF qui investit énormément pour le bonheur des enfants de la Tchopo et proclame sa disponibilité à l'accompagner dans toutes ses activités. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Le 24 octobre, retenez cette date, c'est la célébration de la journée des Nations Unies. En RDC, le système onusien avec la MONUSCO en tête entend commémorer cette journée en partenariat avec le gouvernement et en associant les organisations de la jeunesse, les étudiants et les élèves des classes terminales des humanités. Fin de cette émission à retrouver sur www.radiokapi.net, Radio Okapi en un seul mot. Merci à vous qui venez de nous suivre. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la coordination technique de cette émission. Moi, je suis Babel Pongomasi Mango. C'est avec un grand plaisir que je voulais présenter. L'émission est produite, coordonnée, réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester à l'écoute de la Radio de la Paix. L'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.